La dispute. Ce soir, le spectacle vivant.
Cette émission est préparée par Aïssa Touendoy, Boris Pinault et Grégoire Di Fiore. La prise de son est assurée ce soir par Jean-Guilain Meige. À la réalisation, c'est toujours Daniel Finot. Pour une émission théâtre que je présente ce soir, car Arnaud Laporte est dans les cartons. Avec à notre programme Les Bacchantes de Ripide, mise en scène Bernard Sobel au théâtre de l'Épée de Bois à la Cartoucherie de Vincennes. Quoi maintenant, un spectacle du collectif Tégestan d'après deux textes, un de Yon Fosse et l'autre signé Marius von Mayenbourg au théâtre de la Bastille. Et puis Dans la peau de Don Quichotte, un ciné-spectacle signé Samuel Hercule et Mathilde Meyergans, en ce moment au nouveau théâtre de Montreuil. Aïssa Touendoy est également avec nous pour nous lire vos commentaires, des commentaires que vous pouvez laisser sur Facebook ou sur Twitter. Et toujours, bien sûr, un cadeau à la fin, puisqu'on retrouvera le jeu de la dispute ce soir à gagner le DVD du film Les Fleurs Bleues d'Andrzej Wajda. Et nous commençons ce soir avec ce qui est annoncé comme le dernier spectacle de Bernard Sobel, longtemps directeur du théâtre de Gennevilliers qu'il avait fondé. Il a aujourd'hui des dizaines et des dizaines de mises en scène derrière lui. Pour cette dernière, avec sa collaboratrice de toujours, Michel Raoul Davis, il a choisi donc un texte de Ripide, Les Bacchantes, réputé aussi pour être la dernière de son auteur. L'histoire du retour de Dionysos, dieu du vin, du chaos, mais aussi du théâtre. Il revient donc à Thèbes, sa patrie d'origine, où il entend se venger de ceux qui ont insulté sa mère et de ceux qui refusent de reconnaître son culte, en premier lieu son cousin, le roi Panthée. Pour ce faire, il use de son pouvoir et rend délirante une partie des femmes de la ville, dont la propre mère de Panthée, qui deviennent ainsi ses bacchantes, des fidèles adoratrices.
Fils de Zeus, en cette terre thébaine. Dionysos, quand Panta, la fille de Cadmos, s'est mêlée, foudroyée par le feu de la foudre. J'ai changé ma forme divine en celle de mortel. Et me voici devant les sources de Dircé et les eaux de l'Isménos. Je vois près du palais le mausolée de ma mère foudroyée et les ruines de sa demeure fumant encore du feu de Zeus. Outrage éternel des rats contre ma mère. Je loue Cadmos d'avoir rendu inviolable ce lieu consacré à sa fille. Et je l'ai, moi, caché sous la verdure des pampres. Porteur de grappes. J'ai quitté les champs d'or de Lydie et de Phrygie pour les plateaux de Perse, brûlés de feu, les murailles de Bactriane, la rude terre des Mèdes, l'Arabie, heureuse, et toute l'Asie, baignée de flots salés et peuplée de villes fortifiées où se mêlent Grecs et barbares. Celle-ci est la première en Grèce que je visite, après avoir là-bas fait danser les cœurs et institué les mystères, afin de manifester aux hommes la divinité. Thèbes est la première sur cette terre grecque à crier l'Olympia. La peau de Fantacheté, la nébride au corps, le tir sans main, le bâton sacré, l'arme ornée de lierre, car les sœurs de ma mère, elles, qui auraient dû, moins que quiconque, parler ainsi, prétendait que
Dionysos n'était pas le fils engendré par Zeus, que Sémélée, séduite par quelques mortels, avait, sur la suggestion de Cadmos, imputé sa faute à Zeus et acclamé que Zeus l'avait tué pour son mensonge.
Voilà, on entendait Vincent Mine dans le rôle de Dionysos. Marie-Josée Sirach, déjà peut-être un premier regard, vous allez être obligée de décrire encore mieux que d'habitude parce que moi je n'ai pas vu à la pièce.
C'est une lourde responsabilité. En tout cas, là on entend Dionysos qui, c'est au tout début, donc c'est son retour parmi les humains à Thèbes auprès de ces Grecs qui l'ont rejeté, et c'est un peu, c'est un dieu, c'est le fils de Zeus, mais c'est un bâtard. c'est un étranger, évidemment, quand il retourne là où sa mère est enterrée. Donc tout se passe autour de l'hôtel où sa mère, où les restes de sa mère sont là. La rencontre, et donc il vient, mais déguisé en humain, c'est-à-dire que incognito, et il va y avoir un choc, un affrontement avec non pas l'usurpateur, mais celui qui a pris sa place, en tout cas, qui règne sur cette ville-là. Et Dionysos, c'est à la fois le dieu du théâtre, de l'illusion, c'est le dieu de ce qui d'une liberté dans une cité qui est régie par des règles extrêmement strictes au point tel qu'elles en deviennent dogmatiques. Et si Sobel choisit de monter les Bacchantes, il l'explique, lui, ou peut-être Michel Raoul Davis, sa dramaturge, comme vous le disiez au début, qui est sa complice depuis 60 ans d'une aventure exceptionnelle et extraordinaire, retourner chez les tragiques grecs, chez eux, ce n'est pas par facilité, c'est parce que, et non pour fuir le présent, mais c'est pour mieux le réinterroger, c'est-à-dire retourner à la source, à ce qui s'est écrit il y a 2000 ans, qui fonde un peu quand même nos sociétés encore, et à l'heure où le contexte, le tragique d'aujourd'hui, je crois qu'elle dit, nous empêche presque de penser, c'est-à-dire qu'on est complètement empêtré, et à l'heure où c'est la barbarie qui semble gagner sur l'intelligence et sur la raison. Voilà, donc c'est une pièce qui, quand je le dis, le présente comme ça, ça peut paraître revêche, rêche, un petit peu austère, et pas du tout, parce que le travail de Sobel avec ses acteurs, c'est de jouer les purs, peut-être pour des raisons économiques, mais peu importe. Et on assiste à... On entend tout. On redécouvre ce texte et on est émerveillé parce que c'est un théâtre presque primitif, un théâtre de l'urgence et qui nous oblige à réfléchir dans tout le bon sens du terme.
Fabienne Pascaud, peut-être un premier regard sur cette mise en scène des
oui,
Bacchantes.
C'est vrai que le spectacle est austère, mais bon, c'est... Pourquoi pas être austère si ça nous fait entendre une parole nécessaire, et gloire soit rendue à Bernard Sobel durant ses 60 années de vocation théâtrale. Il a toujours cherché à nous faire réécouter des textes qui pouvaient susciter le débat, qui pouvaient interroger la cité, qui pouvaient permettre que le théâtre soit un forum de pensée politique et citoyenne. Et c'est vrai que ce Dionysos là, c'est la figure de l'étranger. C'est le, comme l'a dit très bien Marie-Josée, c'est donc le dieu du théâtre, de l'illusion, de la différence, des métamorphoses. Mais c'est celui qui est donc différent et qu'on n'arrive pas à admettre dans la cité pour sa différence. Et il se venge, donc il rend folle toutes les femmes, les thébaines, et puis il va s'en suivre la catastrophe terrible où le roi sera finalement dépecé par sa propre mère. Alors à l'heure d'aujourd'hui, c'est étonnant de voir combien Euripide parle de la violence des femmes, hein. Les femmes, c'est pas toujours des victimes, mais ça peut être des bourreaux, et elle dépèce son fils avec une folie, une violence. Évidemment, elle ne se rend pas compte que c'est son fils, mais quand même, elle le tue et elle y prend plaisir. Et là, dans les Bacchantes mises en scène par Sobel, c'est le même acteur qui fait le fils et la mère, donc la victime et le bourreau, c'est Mathieu Marie, et il est prodigieux. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu une figure de tragédien comme ça, avec une voix... On a entendu Vincent Mine dans Dionysos, qui est pas mal non plus, parce qu'il est à la fois le séducteur, le salaud, le monstre, le méchant, le dieu, Satan incarné, et en même temps cette figure de l'étranger qu'il faut savoir apprivoiser. Parce que c'est ça que nous dit Sobel, finalement, c'est qu'on n'arrivera pas, et surtout Euripide, c'est qu'on n'arrivera pas à vivre, à dominer le chaos si on ne sait pas accueillir cette figure de l'étranger. Et là, dans la pièce, dans la tragédie, ils n'ont pas su, Donc c'est à la fin le chaos, à l'image du film qu'on nous présente au début du spectacle, qui est un décor qui se construit petit à petit, un décor antique qui se construit lentement et qui va se détruire à la fin. Le même film redémarre et on voit des images de destruction à la fin du spectacle. C'est donc le testament un peu de Sobel. Si on ne sait pas accueillir l'autre, le réfugié, entre autres, eh bien voilà ce qui risque de nous arriver.
René,
c'est comme
Solis,
ça que j'ai compris. Hein.
Je vois que vous n'avez peut-être pas la même interprétation exactement.
Oui, non, j'ai pas la même interprétation, mais en même temps, on n'a pas de. En tout cas, pas de divergence.
On prend ce qu'on veut.
Voilà, hein, absolument.
C'est ça qui est bien,
voilà,
au théâtre.
Absolument. Et on n'a pas de divergence sur l'intérêt et la qualité du spectacle. Dernier spectacle de Sobel, j'y crois pas du tout. Je pense que.
Des spectacles avec des amateurs, s'il n'a pas de subvention.
Il faut absolument c'est pas qu'il faut qu'il continue, c'est qu'il a toutes les raisons de continuer jusqu'à son dernier souffle. Et du souffle, il n'en manque pas encore.
Enfin, il dit qu'il n'a plus de sous du tout,
Il le dit. Mais de ne pas le croire complètement j'espère qu'il nous donnera d'autres spectacles. Alors, sur le Euripide, oui, rappelez quand même que c'est pas rigolo, hein, Euripide. Ça donne pas envie de vivre à Thèbes, hein, quand même, tout ça. C'est une vision quand même extrêmement noire, extrêmement terrible, extrêmement atroce, hein. Et ce rapport entre les hommes et les dieux, il est placé sous le signe d'une brutalité absolument inouïe. Alors, un mot sur la mise en scène, oui, extrêmement classique, simple, direct. Peut-être un tout petit peu trop à mon goût. C'est-à-dire, moi, j'ai quand même eu un peu de mal à m'habituer parce que il le joue de façon très directe et j'ai l'impression que du coup, on a plus de mal à apprivoiser l'étrangeté d'une certaine façon. C'est-à-dire que j'aurais peut-être aimé que le spectacle qu'on y rentre un peu plus vite et ça passait peut-être par peut-être un peu plus de mise à distance. Mais tout ça est subjectif. C'est pas le plus important. Non, ce qui est intéressant, je trouve, c'est ce qu'il dit et ce que dit effectivement Michel Raoul Davis sur la pièce et ce que vous disiez. Et on peut parfaitement le défendre et c'est en même temps pas comme ça que j'ai vu la pièce. C'est-à-dire que ce qu'ils disent n'est pas ce que moi j'ai entendu de la pièce. C'est-à-dire qu'on peut complètement inverser la chose. Alors oui, cette histoire de Dionysos qui serait la figure de l'étranger, de celui qu'il faut accepter, il se venge parce que il est
il
celui qui
a voyagé partout
il est,
quand même.
Il est le voyageur, il est le transgresseur, il est le voilà, il est évidemment celui une image, un symbole de la liberté, de la transgression et de la liberté qui est aussi la liberté sexuelle. De l'orgie, du plaisir, hein, tout ça. Et or, dans la pièce, ce Dionysos, quand même, l'essentiel de la pièce, c'est l'histoire de sa vengeance, de la préparation de sa vengeance et de la mise en œuvre de sa vengeance. Et cette vengeance, elle est absolument terrible, épouvantable, et elle est surtout les bacchantes et donc les femmes de la ville qui l'emmènent dans son exil, dans les collines autour pour célébrer ces rites, etc., sont totalement fanatisées, elles sont totalement... Et c'est une vision de la divinité qui est une vision qu'on peut voir absolument terrible. Et on peut voir, à l'inverse, le personnage de Panthée comme celui qui essaye de maintenir justement quelque chose qui a à voir avec la raison, avec, alors, certainement la loi, l'ordre et tout ce qu'on voudra, mais aussi qui s'oppose à la barbarie absolue que peut être la soumission totale à la divinité. Et donc, on peut y lire, au contraire, une sorte de penser que c'est plutôt lui le personnage positif et que c'est le danger est effectivement Dionysos. Je pense que les deux lectures sont possibles. Et que donc, moi, je ne suis pas complètement convaincu par cette façon de dire que Dionysos, c'est l'image de l'altérité et que si on n'accepte pas ça, alors la cité est punie. Je trouve ça...
Tirésias, le vieux sage Tirésias, dans la pièce, oui, se réjouit quand même d'aller assister au bacchanal.
Oui, alors, non, mais ils sont tous attirés par les bacchanales, par ailleurs.
Ils y voient une source de jouvence. On a même l'impression que Cadmos, le père...
Il y a la curiosité, surtout. Il y a quelque chose
qui est... Il y a plus que de la curiosité. Il y a de la joie.
Mais alors, ce que vous avez dit, par contre, Fabienne, j'étais complètement, évidemment, d'accord sur cette idée de faire jouer la mère et le fils par un même acteur, et cette sauvagerie de la mère et des femmes qu'on entend, effectivement, on peut y compris trouver quelque chose, qu'il y a quelque chose de très moderne, ou en tout cas de très dérangeant dans le discours. De toute façon, c'est formidable, hein, c'est formidable, mais c'est vrai que c'est assez terrible.
Juste avant de vous redonner la parole, Marie-Josée Sirèche, on a un petit message très enthousiaste sur Facebook de Daniel Jacob Thomasin à Issatou.
Je le cite, les Bacchantes ou le théâtre retrouvé, pas de vidéo, une mise en scène qui ne cherche pas à épater mais à proposer. Il souligne également l'ouverture du sens et non sa clôture, et la performance de vrais comédiens, dont un vraiment fabuleux selon lui.
Alors j'étais très curieuse justement, mais vous allez peut-être m'en parler, Marie-Josée, de l'utilisation de la vidéo qui, je crois, est une première pour Bernard Sauvel.
Première, oui, a priori,
je crois. Je ne mettrai pas ma main au feu quand même. Donc non, je ne suis pas certain que ce soit la
Hannibal,
première fois.
Non, pas Hannibal, je ne sais plus. Non, en fait, je voulais poursuivre la discussion avec... parce que quand... Quand René, vous évoquez la vision terrible de la divinité, on peut la retourner en miroir et parler de la vision terrible de l'humanité, c'est-à-dire des non-dieux, des humains, qui finalement ont perdu de l'humilité. Donc effectivement, il y a un rapport de force permanent entre les dieux et les humains, mais aussi entre la cité qui érige des règles, mais qui sont des règles tellement protectrices, qu'elles sont excluantes, et avec un sentiment de finalement peut-être de pouvoir se passer des dieux, mais en sachant que les dieux grecs ne sont pas non plus ces dieux monothéistes, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de permissions, enfin il y a quelque chose de presque païen dans le rapport qu'ils peuvent entretenir avec les hommes. Et il est vrai que la place des femmes dans cette pièce-là est troublante. Elle est troublante parce que elles sont envoûtées, elles sont et en même temps la cité sans les femmes s'effondre. Enfin, il y a quelque chose où elles sont... C'est peut-être pas elles qui prennent cette décision-là de partir, puisque c'est par-delà leur volonté première, peut-être, ou pas. Mais toujours est-il que la cité, tout d'un coup, s'effondre sans les femmes.
Mais les femmes chez Euripide sont troublantes. Samédée, par exemple, c'était aussi une figure de femme magicienne, diabolique, tueuse, mais par qui l'ordre était secoué et se réinventait aussi. C'est étonnant, la place des femmes dans la société athénienne. On a tendance à croire qu'elles n'existent pas, mais finalement, elles sont plus présentes qu'on imagine. Hein.
Alors, quid justement des comédiennes, puisqu'on a parlé un peu des comédiens, mais il y a quatre jeunes comédiennes qui jouent les Bacchantes, je crois. Comment il les dirige, Bernard Sauvel?
Ça fait partie, moi des choses que je trouve peut-être où j'aurais aimé... un traitement un peu moins direct, c'est-à-dire elles sont vraiment complètement dans le cœur des Bacchantes, avec des costumes, des perruques, une gestuelle qui est une gestuelle un peu de transe, enfin voilà, il y a quelque chose de très premier degré. Elles sont pas mal du tout, il faut le dire, il y a un excellent niveau du jeu, mais je trouve que ce traitement-là il reste convenu, un peu le service minimum, mais peut-être qu'il vaut mieux ça à autre chose, je sais pas. En tout cas, ça fonctionne, hein, ça fonctionne, ça marche. C'est pas, ça leur permet pas réellement d'avoir une vie propre de d'actrice. Leur rôle est un rôle, enfin elles sont indistinctes, ces quatre Bacchantes. Donc elles sont toutes les quatre très bien. C'est pas ce qu'on peut en dire de plus.
Non, elles sont bien, mais elles sont pas non plus exceptionnelles. Voilà, c'est moi ce que j'ai aimé.
Mais ce qu'il leur demande de faire non plus n'est pas. Enfin, voilà, il est quand même dans quelque chose qui est un peu de minimum, on va dire.
Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est l'utilisation de l'espace aussi, parce que la vidéo, alors je me suis un petit peu renseignée sur cette vidéo, en fait, je crois que c'était la construction d'un décor pour un défilé de mode et la destruction du même décor. Et Bernard Sauvel a à récupérer aussi les colonnes qu'on voit qui sont à la fin, qui sont au fond de la scène dans le mur de pierre. Il faut pas oublier que Bernard Sobel était aussi un grand réalisateur de télévision, hein, qu'il a fait des choses magnifiques. Et donc là, j'ai bien aimé moi les déplacements, ce sens du vide, savoir occuper le plateau, savoir faire marcher les acteurs, enfin utiliser même les gradins, la manière dont elles reviennent, les jeunes ménades reviennent dans le public, c'est des choses qu'on a vues 20 000 fois, mais il y a une espèce de simplicité, de proximité qui est tout à fait émouvante, je trouve.
Marie-Josée Sirach,
oui, sur le chœur, en plus je trouve que le chœur, moi je l'ai trouvé extrêmement agréable parce que elle n'en formait qu'une, c'était presque un chœur à quatre têtes et avec un côté derwish tourneur et extrêmement, elle nous embarquait, je trouvais qu'il y avait une vraie une sorte de joie dans leur façon de jouer, d'être outrancière, d'être dans cette transe dont vous parliez, René. Donc voilà, c'est plutôt bien.
Voilà donc, en ce qui concerne les Bacchantes, on souhaite donc que Bernard Sobel continue. En l'occurrence, c'est jusqu'au 11 février au Théâtre de l'Épée de Bois à la Cartoucherie de Vincennes. Il n'y a pas encore de date de tournée, mais j'imagine qu'il y en aura une. À suivre dans La Dispute, Les Tégestanes et Dans la peau de Don Quichotte.
France Culture,
La Dispute.
Nous sommes toujours au cœur de la dispute ce soir consacrée au spectacle vivant. On parle désormais de Quoi maintenant, le nouveau spectacle de Tégestanes. Alors le Tégestanes, c'est un collectif fondé à la fin des années 80 à Anvers par quatre Flamands. L'idée est de travailler des répertoires hybrides et contestataires, je les cite, avec un regard qui soit résolument celui de l'acteur. Donc là, sur la scène du Théâtre de la Bastille, où on peut depuis le début des années 2000 découvrir, je crois, quasiment toutes leurs créations, ils sont quatre, Jolande de Kirsten Maker, Damien de Schriever, Els Dottermans et Frank Verkruissen. La forme est en effet hybride puisque le spectacle commence avec un très étrange et abstrait texte de Jon Foss, Dors mon petit enfant, pour poursuivre sans transition aucune avec un texte de l'allemand Marius von Meyerburg intitulé Stück Plastik, traduction pièce en plastique, l'histoire d'un couple de bourgeois berlinois mangeant bio et travaillant beaucoup qui décide d'embaucher une femme de ménage, Jessica, pour s'occuper de leur maison et de leur fils adolescent.
Mon cher ami,
je suis pas ton ami.
Ce que Madame Schmidt fait derrière cette porte, c'est son affaire.
Elle gaspille tout notre shampoing.
Cela ne nous regarde pas.
Elle est couverte de shampoing.
Personne ne doit le savoir.
Notre shampoing est à nous.
Et maintenant, tu vas poser cette caméra et m'écouter.
Ce n'est pas toi que je filme.
Pose la caméra.
Tu ne m'intéresses pas.
Non, non, c'est Madame Schmidt qui t'intéresse. J'ai bien compris.
Pas Schmidt non plus, juste la mousse partout.
Écoute, je ne te reproche rien. Hein. Vincent, je veux seulement t'expliquer.
Pas besoin.
Tu es arrivé à un âge où ton corps commence à changer.
Mais ce n'est pas facile.
Ton corps tout entier s'étoffe et grandit. Et certains changements peuvent parfois sembler inquiétants pour un garçon.
Je suis déjà grand.
Oui, oui, c'est vrai, tu es plutôt grand pour ton âge.
Plus grand que toi.
Oui, c'est vrai, moi non plus je ne comprends pas très bien quand l'hormone doit la viande hachée ou je ne sais pas quoi. Mais ce que j'essaye de te dire, c'est qu'il y a des changements, hein, et que peut-être une nuit, tu vas te réveiller avec le pantalon de pyjama tout mouillé. Oui, oui, mais tu n'as pas besoin d'avoir peur.
Hein? De mon pantalon de pyjama.
C'est quelque chose de très beau quand tu...
Un pantalon de pyjama mouillé, c'est très beau.
Oui. Non, non. Vincent, ce que je veux dire, c'est que tu es arrivé à un âge où les femmes, enfin les filles, le corps féminin, tu comprends, ou tout ça.
Non.
Hein, ça déclenche quelque chose, physique aussi, dans ton corps, sur ton corps, ton propre corps.
Oui.
Oui, où tu commences à voir le sexe féminin avec d'autres yeux.
Le sexe?
Non, non. Non, ce que je veux dire, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est bien que tu y poses un regard différent, mais pas avec une caméra.
Je ne pose aucun regard sur rien.
Ça ne se fait pas de filmer les gens sous la douche, et donc tu vas me donner cette caméra.
Non.
Donne-moi la caméra et je m'en occupe.
De quoi?
Du film.
Du film?
De la carte, de la puce, peu importe, ce que tu viens de filmer.
C'est ma caméra.
Oui, mais ce que tu as filmé n'est pas à toi.
Mais pas à toi non plus.
Pour comprendre ce qui est drôle, il faut aussi dire que donc, ce petit Benjamin de 12 ans est joué par donc, Damien de Schriever, qui fait, je pense, à peu près 1m90 et qui doit mesurer pas, enfin, peser pas loin de 120 kilos. Donc, bon, ça ajoute évidemment au comique de la scène. Fabienne Pascaud, pour commencer sur ce spectacle.
Ah, moi, j'ai beaucoup aimé Quoi maintenant, mais je suis assez fan du travail de TG Stan depuis des années, parce que le personnage principal, finalement, de tout leur spectacle, c'est le langage, c'est le verbe qu'il désosse, qu'il désarticule, que ce soit Pinter, Tchekhov, Ibsen, ou qui, ils se sont attaqués à tout, même à Yasmina Reza, récemment, avec Art. Et donc, ils ont une manière goulue et gourmande de s'approprier les répliques qui leur donnent un tout autre sens. Par exemple, là, on a goûté à une scène de Marius von Mayenburg, qui est donc un artiste associé à la Schaubühne de Berlin. La pièce, visiblement, elle est très toxique. Mayenburg, c'est quelqu'un d'assez politique, qui dénonce sans arrêt les bourgeois de son pays. Enfin, c'est quelqu'un qui milite à longueur de spectacle. Là, ils en font un vaudeville quasi burlesque, mais le sens est toujours là. La dénonciation de cette bourgeoisie un peu bobo, pleine de bien-pensance et de bonne conscience, la manière dont ils se comportent avec leur femme de ménage. Alors là, on a vu tout le début de la scène, c'était en fait la patronne trouve qu'elle sent mauvais cette femme de ménage, donc elle ne sait comment lui dire, donc c'est très compliqué. Après, elle veut se débarrasser de vêtements qu'elle trouve affreux, donc elle veut quand même lui donner par charité chrétienne. Il y a des tas de situations pleines de condescendance et de mépris qui sont terribles et qui sont montées là en farce. Alors là, l'étonnant, c'est la juxtaposition avec le texte de Yon Foss. Yon Foss, on l'a toujours monté, Claude Régis ou Patrice Chéreau, de manière un peu métaphysique. Une réflexion sur le vide, l'absence, le désert d'être. Et là, c'est effectivement quatre personnages qui s'interrogent sur le fait d'être dans un théâtre, d'être là, de ne pas savoir pourquoi ils sont là. Mais ça donne tout son sens à la deuxième partie, finalement, parce que c'est une réflexion sur le vide et le plein, sur le théâtre, sur l'acteur, sur le jeu, sur ce que ça veut dire qu'être là, qu'être heureux d'être là, parce que visiblement, les quatre du TG Stan jubilent d'être en scène. Ça se voit quand on arrive, ils accueillent les spectateurs, ils leur proposent de se mettre là, plus près, ils leur parlent. Quand ils se trompent en scène, ils reprennent, ils ont des fous rires. Enfin, ils ont une joie et ils la font partager et c'est un moment de théâtre magnifique.
Il faut dire aussi qu'ils ont créé, par exemple, ce spectacle-là en flamand, que c'est leur langue d'origine. Donc, à chaque fois, ils reprennent des textes qui sont donc traduits. Ça, c'est quand même très impressionnant de les entendre dans une langue qui n'est pas la leur. Et ça s'entend. Justement, ils n'essayent pas du tout de masquer. Donc, toutes leurs petites erreurs participent aussi au comique René Solis sur spectacle des TG Stan.
C'est des acteurs formidables, on le sait. Il y a eu des spectacles absolument géniaux. Et ils ont une importance importante, enfin une grande importance, pardon, en Europe sur l'art de l'acteur. Ils ont renouvelé quelque chose, ils en ont inspiré d'autres, une façon extrêmement directe, simple et jubilatoire de s'emparer de tous les textes, de les faire entendre, de s'en amuser, d'en jouer, de jouer sans arrêt avec des allers-retours entre le théâtre et la réalité, que ce soit les apartés avec les spectateurs, que ce soit introduire rajouter un peu de texte, tout d'un coup sortir de la pièce pour lancer une pique personnelle à un autre, y revenir. Enfin, tout ça qui a fait devenu presque une école de jeu. Donc là, on est face à vraiment le noyau dur, en plus de TG Stan. Donc, formidable. Ils ont du plaisir avec là. En même temps, je n'ai pas pu m'empêcher, j'en ai vu finalement pas mal des spectacles de TG Stan, de trouver que celui-là était, je trouvais, assez nettement en roue libre, et que je trouve qu'ils ont tendance quand même un peu trop à cabotiner, tout simplement, et que ça s'entend et ça se voit un peu trop. Alors, c'est pas vrai sur le Yon Foss, c'est-à-dire le premier quart d'heure, il est formidable parce qu'il est très étonnant, effectivement, c'est un texte qui complètement venu de nulle part, donc on le comprend pas, mais les acteurs non plus ne comprennent pas, puisque c'est même le sujet, ils ne savent pas pourquoi ils sont là, il y a juste des bribes de choses qu'ils savent. C'est, il y a une dimension comique que évidemment ils savent faire ressortir, mais il y a aussi une dimension d'inquiétude absolue qui est, voilà, et ça donne, et ils font comment dire, ils font pas les malins à ce moment-là. Il y a quelque chose là qui est donné comme ça, qui est intrigant, qui est drôle, mais qui est inquiétant. On est dans sans doute dans quelque chose qui serait un peu un pays des morts quand même. Ils se réveillent et tout d'un coup, un certain nombre de tous leurs repères existentiels, souvenirs, etc., ne sont plus là. Il y a des trous partout et voilà. Donc et ça, ce premier quart d'heure, je le trouve très bien. La pièce de Meyenburg, qui est pas mal du tout, mais qui est relativement, vous le disiez Fabienne, c'est toujours un peu la même chose, la dénonciation au vitriol des bobos allemands, ses contemporains, les bourgeois berlinois, leur rapport avec leurs femmes de ménage, c'est pas d'une originalité folle, c'est plutôt bien fait, c'est assez drôle. Et je trouve que ce qu'ils en font, on se marre, on l'a entendu à l'extrait, il y a une dimension comique. Effectivement, ils le font ils le traitent en farce en grande partie. Et donc oui, c'est incroyablement drôle et c'est incroyablement réjouissant. Et en même temps, je trouve que pratiquement tous, et je trouve que c'est surtout vrai de Frank Verkruijzen et d'une certaine façon de Dale Zottermann, c'est-à-dire les deux couple. Qui jouent le couple, et je trouve surtout Frank Verkruijzen, je l'ai vu bien meilleur que ça. C'est-à-dire il est là, il est complètement lâché. C'est comme si voilà.
Mais c'est bien qu'un acteur soit lâché oui aussi et non. En même temps.
Oui, non, parce que je trouve qu'ils sont capables de mieux et qu'on l'a vu beaucoup mieux que ça. Il est dans un peu enroulé. Et je trouve que le seul des quatre qui redonne, alors qui est incroyablement drôle, on le sait, et puis il y a ce physique fou de cet énorme bonhomme et
Barbu, qui joue un plasticien, pas piqué des
hannetons. Oui, qui joue en plus non seulement l'enfant de 12 ans, mais un personnage de plasticien picassien. Qui est incroyablement drôle et qui est lui aussi assez inquiétant, enfin, qui est un salopard en fait. Et je trouve que Damien de Schriver, il est un peu moins enroulé justement. C'est-à-dire qu'il est complètement dans assumant toute sa vis comica qui est énorme. Et en même temps, il est plus inattendu. Il a des moments de jeu qui restent, je trouve, des moments d'une très très grande exigence en fait. Et je trouve que les trois autres sont beaucoup plus on y va, et ça marche forcément. Mais je trouve qu'ils ont fait beaucoup mieux quand même.
Marie-Josée Sirache, est-ce que ça a marché pour vous?
Pas trop. Pas trop. Oh. C'est-à-dire que le premier quart d'heure, effectivement, le texte de Fosse, moi, il y avait quelque chose de troublant. Et tout d'un coup, comme ils étaient au bord du plateau et peut-être ils allaient vers quelque chose ou nous emmener quelque part où ils allaient rarement. Et l'arrivée du texte de Meyenburg, alors là, moi j'y ai vu une pièce de boulevard contemporaine, une satire sur les bobos, tout ce qu'on se dit. Je trouvais qu'il y a cette gradation dans l'humiliation de leur rapport à la femme de ménage. Enfin, j'ai l'impression d'un entre-soi permanent. Finalement, on rit, tout le monde rit parce que tout le monde peut s'y retrouver. C'est-à-dire qu'ils sont berlinois, mais ils pourraient être parisiens ou romains, enfin, peu importe. Et ça m'a laissé de marbre, c'est-à-dire que...
Vous n'avez pas fait rire, vous n'avez pas...
Pas trop.
Joui des situations.
Non, Fabienne.
Et du jeu des acteurs.
Je suis désolée. Je les admire, je les trouve... Je les trouve extraordinaires comme acteurs. Je trouve qu'ils ont fait des...
J'aimerais bien que la plupart des acteurs français
soient comme ça. Moi, ce qui me questionne, c'est le choix. Pourquoi s'obstiner aujourd'hui, s'acharner à vouloir faire croire qu'on est subversif en montant des textes qui dénoncent cette nouvelle bourgeoisie intellectuelle?
Mais moment, il prouve que Marius von Meyenburg, on y est tous. La Schaubühneur en se pâmant, n'est pas si subversif que ça, que c'est un auteur de boulevard.
Absolument,
il dénonce. C'est ça. Déjà pas mal.
Certes, alors,
Marius von Meyenburg, monté par Ostermayer, tout le monde croit que c'est sublime et politiquement fou.
Non, je pense qu'il a été
inventif,
plus
là,
subversif.
On voit ce que c'est.
Il a été plus. Oui, non, mais c'est aussi le parti pris des Tejestan, parce que quand il monte Art de Yasmina Reza il y a un an ou deux, pour le coup, ils sont subversifs parce qu'ils nous amènent à un endroit du texte qu'on n'avait pas bien vu. C'est-à-dire que il y a la critique du marché de l'art, de l'art contemporain, tout ça. Mais eux, ils recentraient à ce moment-là sur cette histoire d'amitié qui partait, qui volait en éclats.
Et là, je trouve qu'ils sont très complaisants vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis, de, par exemple, de la place des artistes contemporains. Et ce discours-là sur l'art contemporain commence un peu à me fatiguer. Je le trouve de plus en plus réac. Et je me dis que quand même, il serait temps qu'on arrête de... peut-être de se faire du mal nous, parce que si le monde va mal, on est responsable, mais faut peut-être aussi élargir le champ des responsabilités. Et voilà, donc peut-être c'est un peu confus ce que je dis, mais ça m'a pas fait rire comme ça. Le rire n'était pas grinçant, je trouve que le rire était complaisant, et ça m'a beaucoup questionnée.
Moi, je vois ce que vous voulez dire quand même, Marie-Jo Sirache. Moi, j'avais jamais vu de pièce 2, donc nouveauté totale, et j'ai adoré la première partie, qui est en effet très inquiétante. Et cette inquiétude, partant un petit peu avec le texte de Mayenburg, on garde un peu un seul niveau de lecture qui est ce niveau comique,
oui,
et qui en effet est un comique un peu qui joue sur des lieux communs, dont on rit, je trouve, beaucoup par ailleurs, sur le bio, sur les tisanes au gingembre, tout ça, sont déjà un peu des lieux communs dont on a l'habitude, je trouve, de rire. Donc du coup, la charge politique, elle est un petit peu amoindrie par l'habitude ou le cliché. Et j'ai beaucoup ri, pour le coup, quand même, tout en ayant l'impression que ce rire n'était pas un rire très efficace politiquement. Je sais pas si...
Mais alors, audace, c'est de mêler les deux pièces qui prennent effectivement, qui résonnent l'une par rapport à l'autre. S'ils n'avaient monté que Mayenburg, je suis d'accord avec vous, mais ils ont monté cette interrogation aussi sur le théâtre et qui détruit un peu ce que la pièce peut avoir de vaudevillesque. C'est un jeu de miroir.
Oui, parce que la fin retrouve un petit peu cette inquiétude, mais c'est vrai qu'on a tout un gros ventre de pièces qui joue en effet uniquement sur un comique très premier degré. Enfin, moi, j'ai trouvé aussi René Solis.
Oui, non, mais je pense qu'on... enfin, moi, je reconnais des choses dans tout ce qui vient d'être dit. Marie-Josée Sirage, oui, moi, je crois qu'effectivement, peut-être un des mérites paradoxaux du spectacle, c'est de mettre en lumière les faiblesses du texte de Mayenburg. Et ça, c'est vrai, tout d'un coup, on se rend compte que oui, il y a quelque chose de très convenu. Et puis, je suis d'accord avec vous, il y en a un peu marre sur la dénonciation des bobos. Il y a là un fonds de commerce qui a été déjà beaucoup, beaucoup exploité. Et
c'est plus les bien pensants que les bobos.
Oui, enfin bon, en identifiant les uns aux autres. Mais voilà, la dénonciation de ce qui serait le nouveau conformisme, les nouveaux bourgeois, etc. C'est vrai que c'est pas très intéressant. Et du coup, c'est vrai, on entend du coup que la pièce de Mayenburg est peut-être pas si bien que ça. Et alors de ce point de vue-là, oui. Tant mieux peut-être, et merci à eux. Mais pour le reste, oui, moi je trouve qu'il y a, heureusement qu'il y a ce premier quart d'heure, effectivement, qui est, alors là, qui donne une autre coloration, l'effet miroir, vous avez raison aussi Fabienne, et que à cause de ce premier quart d'heure, alors on se dit que oui, c'est plus compliqué que toute cette, excusez-moi, mais je reviens sur cette sensation qu'ils sont quand même, qu'ils étaient un peu en roue libre et que ils sont capables de beaucoup mieux.
Marie-Josée Sirache, peut-être un dernier mot. Vous n'avez pas ri du tout, même la fin, ça vous a pas du tout fait rire.
C'est-à-dire que je riais de moins en moins, de moins en moins, et j'étais très le rapport que le texte induit à la femme de ménage, ça va au-delà de la femme de ménage. C'est-à-dire, c'est le rapport induit au travail. Se poser la question, comment on la paye ou on la paye pas, mais et tout ce rapport malsain à l'argent. Mais et enfermer ça dans un questionnement uniquement de ces classes moyennes intellectuelles, je trouve que ça me dérange parce que
c'est bien que ça
on vit dans une... Non, mais ce qui me dérange, c'est cet enfermement. On est dans l'entre-soi, les rires sont complices parce que finalement, le public qui est là, c'est celui qui est caricaturé sur le plateau.
Pas la Bastille. La Bastille, c'est des petits jeunes. Franchement, là, il faut rendre...
C'est mêlé. C'est mélangé.
Absolument. Les spectateurs de la Bastille, il y a beaucoup de jeunes de 18, 20 ans et on ne peut pas dire qu'on est dans l'entre-soi. Là, moi, je trouve que c'est 18, un public formidable.
Oui, mais moi, j'aime beaucoup le public de la Bastille et j'aime beaucoup le théâtre de la Bastille. Moi, en tout cas, les rires... moi, je n'arrivais pas à rire. Mon rire décroissait au fur et à mesure qu'il croissait dans... Enfin voilà, il n'y avait pas de vase communicant. Moi, je n'arrivais pas. Et je trouvais ça presque, c'était d'un, je trouvais que ça, il y avait du mépris de classe dans cette façon de se moquer de cette femme de ménage qui, elle, est pleine de bon sens, qui ne comprend pas les atermoiements de ses patrons. Elle se contente de faire son métier.
On est à fond pour la femme de ménage, on n'est pas pour ses propres.
Oui, en plus, elle se venge.
Oui, pour le coup, c'est quand même une figure extrêmement positive, même dans le texte.
Bien sûr, c'est la figure positive du spectacle, la femme de ménage.
C'est terrible, là aussi. On est dans les vacances.
Bon, faites-vous votre opinion vous-même, vous nous écrirez. Quoi maintenant, dernier spectacle des Tégestan jusqu'au 9 février au Théâtre de la Bastille à Paris. À noter aussi qu'on pourra voir un autre de leurs spectacles Atelier en mars, d'abord à Montpellier, puis au Théâtre du Bois de l'Aune à Aix-en-Provence et enfin à la Rose des Vents à Villeneuve-d'Ascq. Toutes les dates seront sur le site.
France Culture.
La dispute.
Troisième et dernier sujet de cette dispute, spectacle vivant dans la peau de Don Quichotte, un ciné-spectacle du collectif La Cordonnerie, mené par Samuel Hercule et Mathilde Veillorgans. C'est dans le cadre du festival L'Âge des Possibles à Montreuil. Alors sur scène, d'abord, une comédienne vient nous raconter l'origine du projet, un carton trouvé dans une brocante, dans lequel la compagnie aurait trouvé des archives, des photos, des essais pour un casting et un scénario. L'histoire de Michel Alonso, employé austère et solitaire d'une bibliothèque de Picardie, qui le soir du passage à l'an 2000 devient Don Quichotte de la Manche. Un spectacle à deux niveaux donc, puisque comme tous les travaux de ce collectif, il y a l'écran et la scène. Le film réalisé est muet, il faut donc l'accompagner en musique, faire les voix et assurer les bruitages.
Le scénario de M. Benenreli commence le 8 décembre 1999 dans une petite ville dont on oublie toujours le nom, quelque part en Picardie. Le héros de cette histoire s'appelle Michel Alonso, un homme dont on ne sait pas grand-chose, sinon qu'il travaillait à la bibliothèque de la petite ville dont on oublie toujours le nom, et que de la vie commune, il avait l'air triste. On sait également que 2 ans avant le début de cette histoire, Michel avait entrepris une opération de modernisation des catalogues et de numérisation des contenus. Un budget de 10 300 francs lui avait été alloué par le conseil municipal pour financer l'achat d'un ordinateur équipé d'un graveur de CD-ROM. Michel avait mis de longs mois à dompter son nouvel outil de travail. Mais malgré quelques ratés et des fatales erreurs juste avant le CTRL-S, Michel avait finalement réussi à faire bon ménage avec sa souris, ses fenêtres et ses points d'oc. Dans ses notes de travail, M. Benenreli suggère également qu'il est important de connaître un événement tragique qui allait, par ricochet, considérablement peser sur le cours de la vie de Michel Alonso. En novembre 1998, le décès soudain de M. Jacques Desrosiers, le maire de la petite ville dont on oublie toujours le nom, avait provoqué une élection anticipée. Élection remportée haut la main par M. Yves Leduc, qui aimait se présenter comme un grand pragmatique et avait la fâcheuse habitude de tout comparer au coût d'une place de parking.
C'est très brutal comme coup. Je m'attendais pas à ça. En plus, c'est un extrait qui donne pas vraiment la substance de spectacle, qui est bien plus fantaisiste et plus foisonnant que ce qu'on vient d'entendre. René Solis.
Alors moi, je ne connaissais pas le travail de la compagnie La Cordonnerie, donc la compagnie de Mathilde Veillorgans et Samuel Hercule, qui jouent par ailleurs dans leur spectacle. Et c'est une très bonne découverte, parce qu'il y a une dimension à la fois modeste et extrêmement subtile finalement. Et j'ai trouvé ça vraiment très bien. C'est-à-dire que le coup du manuscrit trouvé dans la malle, il y a quand même une vieille histoire, mais ça marche toujours, hein. Et ça marche là aussi. On se fiche évidemment de savoir évidemment pas vrai, mais ça n'a aucune importance. Alors, sinon, si j'ai bien compris, si j'ai lu un peu après avoir vu le spectacle, le dossier, donc le fonctionnement un peu toujours de la même façon, c'est-à-dire qu'ils prennent une histoire, c'est souvent, ils ont beaucoup travaillé sur les contes, hein, visiblement, et ils filment, ils le filment en muet. Et puis le spectacle, c'est le bruitage et la bande son, les dialogues, le bruitage, éventuellement une partition musicale en plus du film. Alors c'est un rapport cinéma-théâtre qui est un rapport tout à fait original d'une certaine façon, puisque les deux choses sont posées en tant que telles. C'est du cinéma. Et puis c'est du théâtre et on les juxtapose. Ils ne prétendent pas faire un usage de la vidéo, aller dans les coulisses, chercher les...
Enfin, je vois, voilà. Quoi vous faites référence.
Donc il y a là, et puis ça fait longtemps qu'ils font ça, donc on peut pas les accuser d'être dans l'air du temps des images sur le plateau. Et ce qui est évidemment très bien et finalement très beau, c'est à la fois le rapport entre les images et le théâtre. C'est-à-dire que d'abord ces images sont des images qui sont pas du tout joli, léché, ça fait penser à du... Enfin, en tout cas, elles ont plus un côté, on dirait, des vieux films en Super 8, plutôt que des images numériques. Il y a une dimension un peu tremblée, des cadrages qui ont l'air approximatifs. C'est beaucoup plus travaillé que ça en a l'air, et c'est là où c'est très bien. Mais tout a l'air bidouillé. Et de même, les éléments du bruitage, c'est aussi des choses qu'on dirait récupérer dans un vide-grenier, un vieux vélo rouillé, voilà, des vieux outils. Et avec ça, on fait la sonnerie du téléphone ou le bruit du TGV. On le fait avec des choses totalement improbables, et c'est presque une dimension enfantine du jeu. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas du tout d'imiter, il s'agit d'évoquer. Et c'est ça, c'est là-dessus que joue le spectacle. Et par ailleurs, leur traitement de cette histoire de Don Quichotte, il est aussi, je trouve, extrêmement subtil au bout du compte.
On va y revenir peut-être un premier regard, Marie-Josée Sirache, sur ce dispositif entre la scène et l'écran.
Je trouve que ça marche très très bien, et moi, pareil, je ne connaissais pas leur travail. J'ai pensé aux cartoons sardines qui font un petit peu, qui ont cette même démarche, mais eux projettent des films en noir et blanc, des vieux films du patrimoine, si je puis dire, que ce soit des films russes, enfin du temps du muet, et à partir de là, eux, ils jouent sur scène et ils doublent, Eux, ils font leur propre film. C'est vrai que la démarche va plus loin. C'est-à-dire, il y a une mise en abîme, On est sans arrêt projeté comme ça dans l'inconnu. Et leur travail d'adaptation de ce Quichotte, je l'ai trouvé extrêmement réjouissant, parce qu'il est à la fois très fantaisiste et très fidèle à l'esprit du Quichotte. Moi, j'ai retrouvé complètement cet univers-là, avec ses personnages. Je trouve que on passe de l'écran au plateau sans s'en rendre compte, sans aucun souci de compréhension. Moi, nous étions ensemble, René, il y avait beaucoup, beaucoup de lycéens, mais tout le monde est parti dans cette aventure-là.
Parce qu'il faut dire que c'est un spectacle classé, entre guillemets, jeune public.
Oui, jeune public, mais effectivement, pas avant 10-12 ans quand même, peut-être.
Il y avait des sixièmes, nous, là, on était cet après-midi avec Aïssatou, il y avait
il y avait des sixièmes, des collégiens, mais très bien, je pense qu'effectivement, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir lu le Quichotte pour rentrer dans ce spectacle, l'aimer, s'enthousiasmer. Il y a vraiment un très beau travail de la façon dont ils ont de se doubler eux-mêmes, alors qu'ils sont à l'écran, et ils sont sur le plateau, donc, et tout ça fonctionne avec l'utilisation de deux écrans différents, un premier écran très près du public en bord de scène, où c'est comme un petit film effectivement de famille, et puis ensuite dans la deuxième partie du spectacle, quand Don Quichotte part, quand Michel Alonso se métamorphose en Don Quichotte après le bug de l'an 2000, puisque c'est ça l'histoire, là on part au milieu des champs de betteraves et des éoliennes en Picardie, mais la Mancha peut être en Picardie, il n'y a pas de souci. Et ça fonctionne, et j'ai trouvé ça. Et tous les personnages importants du Quichotte sont là, les clins d'œil au Quichotte, qui s'appelle Alonso, alors que le Quichotte s'appelle Alonso Quichoité, je ne sais plus. L'allusion à Ben Galli, enfin à l'auteur, qui est celui derrière lequel se réfugie Cervantes dès le début du deuxième tome. On ne le sait pas, ce n'est pas très grave, on le sait, on trouve ça très malin, très astucieux.
tout comme le rôle du maire et de Madame le maire, je dis sciemment parce qu'il y a le côté notable vieille France quand même. Ce sont le duc et la duchesse qui se moquent de Quichotte et lui font du mal. Enfin, voilà. Donc je trouve que c'est un très très joli spectacle.
Fabienne Pascaud.
Oui, c'était un très joli spectacle, plein de fantaisie, d'humour et en même temps d'une tristesse abyssale, quoi, de mélancolie. Ce personnage de bibliothécaire solitaire, perdu dans ses bouquins, qui a quand même été un 68ard. On le voit de temps en temps quand il est chez lui.
Il y a beaucoup de références.
Exactement. Oui. Il regarde des photos en noir et blanc, là pour le coup, et il se met à exister, à être d'aujourd'hui. Et c'est ça que j'ai bien aimé aussi dans le spectacle, c'est que ça raconte la France d'aujourd'hui. Ça raconte le désarroi, de ce type qui a peut-être la soixantaine, qui a donc été un 68ard, vit dans une Picardie qu'on sent quand même en difficulté. Les rues sont un peu vides, son appartement est sinistre, on se dit que le chômage n'est sûrement pas loin. Et donc, ils ont réussi, dans toute leur fantaisie, dans tout leur respect de l'œuvre, à donner quand même une connotation totalement contemporaine et du désarroi et de la solitude contemporaine. Et ça, je trouve ça très, 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 très joli aussi.
Oui, René, vous parliez de modestie des moyens, mais c'est en effet, il y a un côté bricolage, mais en même temps une virtuosité incroyable, fluidité, une maîtrise sur scène, c'est impressionnant.
C'est là où ils sont forts, c'est-à-dire qu'ils donnent l'impression d'être vraiment dans du bidouillage, dans quelque chose de très simple, mais ça l'est. Les bruitages sont je reviens sur cette histoire de bruit du TGV, moi qui m'enchante. Ils agitent une feuille métallique et tout d'un coup ça prend des proportions. Et ça ressemble pas au bruit du TGV, en même temps c'est tellement le bruit du TGV qu'on est vraiment dans quelque chose qui est de la vraie fantaisie. Et alors, et c'est ce qui est très beau, c'est effectivement, d'accord bien sûr sur la mélancolie et sur le traitement de la fantaisie et sur cette dimension, il a des rêves trop grands par rapport au paysage et la façon dont cette Picardie est filmée, c'est exactement ça. Et donc il se transforme d'abord, c'est très bien aussi parce qu'il se réveille quand même dans la Manche avec des chevaux, avec l'âne de Sancho et tout, et puis très vite c'est comme si son rêve retombait, c'est-à-dire que il s'est élevé jusqu'à Don Quichotte et jusqu'au paysage espagnol, et c'est comme s'il retombait très vite dans les champs de betteraves, et là il se transforme en une figure à la fois sympathique et pathétique, et donc le cheval devient une bicyclette, et avec Sancho ils arpentent, c'est ce paysage d'éoliennes de champs de betteraves,
des pommes de terre,
c'est des SDF d'aujourd'hui, et confrontés, et ce qui est très beau, c'est le traitement, alors à la fois les clins d'œil au roman, et en même temps ce traitement des personnages qui sont tous très ambigus, c'est-à-dire qu'on a l'impression que Dulciné sera un personnage extrêmement sympathique, et en fait pas du tout. Le maire et sa femme, qui sont complètement diaboliques, sont aussi inattendus, puisque finalement ils vont l'abandonner, non pas à l'hôpital psychiatrique, mais sur la scène d'un théâtre.
Le péniste, quand même.
Oui,
sur la vidéo qu'ils font, c'est mis FN en bas.
Ah, j'ai pas vu ça.
Vous n'avez pas vu ici, en bas à droite.
Pas vu. Alors, c'est très discret.
Ils sont présentés. Mais en Picardie, même temps,
il le dépose sur une scène de théâtre et c'est très étonnant. Et il le regarde sur la scène. Oui, il est manipulé,
C'est nous, c'est les réseaux sociaux, c'est tout ça. Donc ça évoque vraiment le monde d'aujourd'hui.
C'est plein de choses. Et c'est un spectacle d'une grande finesse.
Marie-Josée
Sirachian. Oui, il y a de la mélancolie, mais tout comme dans le Don Quichotte, c'est-à-dire que le personnage de Cervantes, c'est la fin d'un monde, celui de la chevalerie, et lui il se retrouve, l'an 2000 a été un cap pour certains, donc cet ancien 68ard part quand même à l'aventure parce qu'il se sent en mission, c'est-à-dire sauver la veuve et l'orphelin, dénoncer les injustices. Il part avec Sancho Panza, qui est son collègue de bibliothécaire.
C'est l'homme de ménage,
on retrouve Mayenbourg.
Absolument. et c'est Sancho qui va prendre la relève. Et c'est ça qui est formidable, c'est-à-dire que le personnage du Quichotte continue d'exister par-delà les époques et les pays. Et c'est lui qui se met à hurler après le TGV et il reprend le flambeau de ce Don Quichotte vieillissant, et ça, je trouve ça assez beau.
Il apporte la lettre à Dulciné.
Et D'ailleurs, le traitement de la folie chez Quichotte, je trouve qu'il est extrêmement bien amené parce que c'est fin et c'est pas voilà, on dénonce pas l'enfermement, c'est pas ça. C'est-à-dire que il y a quelque chose de la folie. Comment on aborde ça? Comment on peut vivre avec ces gens? D'ailleurs, quand il est dans la rue, il y a une très belle scène quand il se retrouve devant ce food truck, comme on dit aujourd'hui,
camion de pizza.
C'est une pizza, d'accord. je me souvenais plus ce qu'il avait acheté ou commandé.
Et rien, parce qu'il n'a pas d'argent.
Et ça passe, ce personnage-là. C'est-à-dire qu'on est capable aussi de regarder les gens qui sont pas tout à fait, qui sont différents avec bienveillance.
Voici donc pour ce très beau spectacle dans la peau de Don Quichotte, imaginé par Samuel Erkin, Mathilde Veillargan. C'est jusqu'au 10 février au Nouveau Théâtre de Montreuil, puis en tournée, je donne quelques dates. Le 27 et 28 février au Théâtre de Villefranche-sur-Saône, du 4 au 6 avril à la Comédie de Caen, du 15 au 19 mai au Théâtre de la Croix-Rousse à Lyon. Je vais quand même donner les dates lyonnaises puisqu'ils viennent de Lyon. Et du 1er au 9 juin prochain aussi au Théâtre de la Ville à Paris. Il y aura d'autres dates, on les laissera sur le site. Il est bientôt l'heure de conclure cette émission, mais non sans avoir joué Grégoire Di Fiorevier, qui nous rappelle d'abord la question de vendredi dernier et vous nous en donnez la réponse.
Quel personnage shakespearien dont le nom serait l'anagramme de cannibale est le fils d'une sorcière et l'esclave d'un mage? La réponse était Caliban.
Voilà, l'anagramme et non l'acronyme, parce que là ça aurait été compliqué. À gagner ce soir, le DVD du film Les Fleurs Bleues d'André Vajda.
Dans la forêt de quel village tristement célèbre, le père du réalisateur polonais fut exécuté, ainsi que plusieurs milliers d'officiers?
Si vous avez la réponse, vous pouvez l'envoyer ainsi que vos coordonnées postales à l'adresse suivante, auditeur@radiofrance.com. Les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet www.franceculture.fr à la page de La Dispute, site sur lequel vous pouvez aussi réécouter ou vous abonner au podcast de cette émission. Aiguisez vos commentaires pour l'émission de demain, vous pouvez les poster sur la page Facebook de La Dispute dès maintenant ou attendre le direct pour commenter via le compte Twitter DisputeFC avec le hashtag La Dispute. Demain à 19h, La Dispute sera consacrée à la musique classique. Nous serons en compagnie d'Emmanuel Giuliani, de Guillaume Thion et d'Emmanuel Dupuis. À notre sommaire, Only the Sound Remains, l'opéra de Kaija Saariao à l'Opéra Garnier à Paris, mais qui sort aussi en DVD. Un autre DVD, Lucio Silla, Mozart, mise en scène Marshall Pinkowski et direction Marc Minkowski. Et un disque, Brahms, par Jean-Claude Keras et Alexandre Tarot.